France Musique.
Jazz Collection pour France Musique, la série Piano Jazz, troisième épisode proposé par Alex Dutille, les modernes, Ahmad, Bill, Herbie, Chick et les autres. Né en Jamaïque le 2 décembre 1931, le pianiste Wynton Kelly décède à seulement 39 ans à Toronto des suites d'une crise d'épilepsie. C'était le 12 avril 1971. Le soir même, Wynton Kelly avait prévu de se produire dans un club de Toronto. Accompagnateur hors pair, Wynton Kelly avait tourné durant 3 ans avec la chanteuse Dinah Washington. C'est avec elle qu'il se fit repérer avant d'être ensuite engagé par Dizzy Gillespie. Charles Mingus et Lester Young vont l'embaucher aussi. Et en 1959, c'est la consécration, Wynton Kelly est engagé dans le quintet de Miles Davis pour y remplacer Bill Evans. Bill Evans, qui admirait Wynton Kelly, déclarera en 1971 « Wynton n'a pas encore montré tout ce qu'il est capable de faire. Dès que je l'ai entendu avec Dinah Washington, j'ai senti qu'il y avait une affinité entre nous. Outre une merveilleuse technique, il obtient une très belle sonorité. Et je suis sûr qu'il est tout à fait capable de jouer en solo, sans le moindre accompagnement. Mais j'aime tellement ce qu'il fait dans une section rythmique que je n'ai pas vraiment envie de le voir faire autre chose. » En 1963, Wynton Kelly quitte le groupe de Miles Davis pour former son trio, dans lequel il amène avec lui deux musiciens de Miles, le bassiste Paul Chambers et le batteur Jimmy Cobb. Ils se connaissaient depuis 1959.
The main thing is source for me is my hometown Pittsburgh. Incredible place.
Le pianiste Eric Reed a déclaré: Ahmad Jamal est au trio de piano ce que Thomas Edison est à l'électricité. Sacré compliment. Et que ce soit avec son ensemble The Three Strings, les trois cordes, en 1951, ou avec son trio ensuite des années 58-61 avec la batterie, personne n'a fait plus pour éclairer l'évolution des possibilités harmoniques et rythmiques dans le format du trio de piano que Ahmad Jamal. Ses débuts sans batterie, avec le guitariste Ray Crawford et le contrebassiste Eddie Calhoun, s'inscrivent très précisément dans la lignée du trio de Nat King Cole, avec un sens extraverti de la dynamique et des contrastes. D'emblée, Ahmad Jamal affiche un parti pris intemporel, une ligne claire, dont il ne déviera jamais à cette juste distance des mélodies qui permet de les caresser et de s'en libérer. Pendant plus de 60 ans, Ahmad Jamal, disparu en 2023, il avait 92 ans, va éblouir par sa maîtrise musicale. Lui qui fut un enfant prodige à Pittsburgh, où il donnait des concerts classiques à l'âge de 8 ans. En concert, il se positionnait à droite de la scène, la contrebasse et la batterie et les percussions dans son dos. Souvent, il se retournait pour donner une direction, demander une nuance, impulser en solo de tel ou tel de ses accompagnateurs. Et on comprenait alors que plus que du piano, il jouait du trio, organisant une mise en scène des éclats et des silences. Jamais l'impression d'un effort chez Ahmad Jamal. Il semblait que ce qui lui tombait sous les doigts était facile, alors que c'était le fruit d'un travail intense et d'un climat de confiance. Keith Jarrett, pourtant avare de compliments, me confia un jour que le trio d'Ahmad Jamal en 1958, au Pershing de Chicago, fut l'un de ses albums de chevet. Ahmad Jamal, Israel Crosby et Vernel Fournier, ou le triangle du désir. Après avoir quitté Miles Davis et passé une bonne partie de l'année 1959 à chercher les bons partenaires, Bill Evans, qui était né en 1929, qui s'est éteint en 1980, forme son premier grand trio, un classique absolu, avec le bassiste Scott LaFaro et le batteur Paul Motion. Le groupe restera uni jusqu'à la mort accidentelle de LaFaro, 18 mois plus tard, enregistrant deux albums studio pour Riverside, ainsi que deux autres en club au Village Vanguard. Ils sont aujourd'hui dans la légende, les albums de ce trio. C'est une période étonnamment novatrice pour le jazz, avec Ornette Coleman, qui suscite à la fois l'enthousiasme et l'indignation, Charles Mingus, qui se découvre un allié naturel avec l'arrivée dans son groupe d'Eric Dolphy, ou Coltrane, qui formule ses propres alternatives incantatoires. Le trio de Bill Evans fait partie de ce cercle restreint pour son exploration continue de la structure modale, l'intensité de son lyrisme et l'importance sans précédent qu'il accorde à l'interaction entre les membres du groupe. Le piano, la contrebasse et la batterie ont la même importance pour lui. Et c'est cette dernière dimension qui était la plus surprenante, un aperçu de la liberté rythmique et des échanges qui amplifiaient les trouvailles harmoniques. Plutôt que d'adopter l'approche typique du trio, perfectionnée à l'époque par Oscar Peterson, dans laquelle le piano occupe le premier plan musical, tandis que la basse et la batterie remplissent des fonctions subsidiaires de maintien du tempo, Bill Evans et sa troupe bouleversent l'équilibre. La contrebasse est devenue une deuxième voie principale et la batterie est libre de jouer des motifs rythmiques autour d'une pulsation qui devient parfois implicite. Bill Evans est aujourd'hui considéré comme l'un des pianistes les plus influents de tous les temps, il faut se souvenir qu'il resta longtemps cantonné à être un musicien pour musicien. Il avait traversé les années 60 à contre-courant de l'explosion du free jazz. Et Radio France joua un rôle important dans son retour au premier plan quand André Francis le programma avec constance à la maison de la radio ou dans les salles parisiennes. Jusqu'à cette soirée en apesanteur à l'Espace Cardin de Paris, le 26 novembre 1979, un concert en deux parties qui allait faire l'objet de deux albums successifs. Avec son nouveau trio, Bill Evans était dans un tel état de grâce que la soirée se prolongea longtemps autour du piano de l'appartement de son ami Francis Podras.
It's obvious now that jazz is the most central and important thing in my life. Yet, I never knew that. I was involved with jazz, but, you know, I went to college, I got a teacher's degree, because I thought I might teach. But when the moment came...
Moins d'un an avant sa disparition, ce témoignage n'a rien dans Chant du Cygne. Bill Evans, à Cardin, en 79, est un sommet d'énergie, de générosité et de lyrisme. De Bill Evans, le cas de son quasi-contemporain Paul Blais, 1932-2016. Originaire de Montréal, Paul Blais fut à New York l'un des plus importants innovateurs de la grande aventure du jazz. Paul Blais qui s'est révélé dans les premières expériences libertaires d'Ornette Coleman, Don Cherry, Charlie Haden et Billy Higgins à Los Angeles. Sa participation au trio sans batterie de Jimmy Giuffre, ensuite, à la charnière de 1960, annoncerait une décennie au cœur du volcan du free jazz, dont il sera l'un des rares pianistes. Mais c'est sa rencontre avec Carla Blais, muse et compositrice, qui s'avérera déterminante. Carla qui va lui fournir des dizaines de compositions ouvertes, où le sens de l'espace de Paul Blais fera merveille, où il construisait ses improvisations phrase après phrase, avec un sens très poétique de la narration. Et bien sûr, une conception parfaitement égalitaire du trio, un triangle résolument équilatéral. Paul Blais m'a eu confié qu'il adorait faire sonner un piano à queue comme un piano droit, histoire de souligner que ce qu'on raconte doit rester l'essentiel, ce qui n'empêcha pas cet indépendant dans l'âme de signer quelques albums sur les labels de deux amoureux fous du piano, Jean-Jacques Puccion en France pour Owl et Manfred Eicher en Allemagne pour ECM. C'est d'ailleurs chez ECM, en 1972, que Paul Blais réalisa son premier album en piano solo, Open to Love, autour des compositions de ses deux muses successives, Carla Blais et Annette Peacock. Cecil Taylor, 1929-2018, c'est l'autre héros du free jazz, encore plus radical que Paul Blais. La musique de Cecil Taylor, c'est un univers en soi. Elle implique d'entrer dans un monde complètement différent de ce qui se passe à l'extérieur. Lors de ses concerts, Cécile est tellement immergée dans les préparatifs, ça peut être un solo de danse, un poème déclamé, un extrême du clavier joué pianissimo, que le concentré d'énergie qu'il crée envahit la pièce et tout ce qui s'y trouve. Et lorsqu'il s'agit d'une session d'enregistrement, personne n'a jamais besoin de demander le calme. Il l'accorde, presque sans y penser, à ce geyser sur le point d'éclater au piano. Comme l'a noté l'arrangeur et compositeur Gil Evans, tout ce que je peux dire de Cécile en tant que pianiste et compositeur, c'est lorsque je l'entends, j'éclate de rire de plaisir. Parce que son œuvre est tellement riche de milliers de petites étoiles. Il se passe tellement de choses en permanence, et c'est un tel magicien que tout ce qu'il fait regorge de toutes sortes de possibilités. Que ce soit en solo ou en petite formation, les morceaux de Cécile Taylor s'étendent facilement sur 20 ou 30 minutes. Et là, peu importe la narration, c'est l'intensité et la surprise de chaque seconde qui comptent. Ce sont des instants à vivre autant qu'à écouter, et peu importe que l'on entre à la 4e ou à la 13e minute, l'éblouissement est au rendez-vous.
Musique, Jazz Collection, le piano jazz. Alex Dutil.
Pour beaucoup, McCoy Tyner est le pianiste de Coltrane, celui qui lui a fourni un cadre modal et une invitation à la transe. Pour autant, il y a un McCoy d'avant et d'après Coltrane, un virtuose imaginatif, passionnant, qui a beaucoup contribué à l'évolution du piano jazz. Et ses années de formation l'ont vu trier les aspects du vocabulaire du jazz qu'il pouvait maîtriser, les procédés harmoniques et mélodiques venus du bebop, mais placés dans un cadre rythmique plus souple et un toucher léger mais ferme qui lui permettait de swinguer avec force sans jamais perdre de vue le lyrisme qui lui plaisait. McCoy Tyner en 1962, sur son propre morceau, Inception, il apporte au piano une tempête musculaire avec une tonicité qui deviendra sa marque. Lorsqu'il a enfin formé ses propres groupes après la disparition de Coltrane, les concepts musicaux de McCoy Tyner étaient bien définis. Il pouvait revenir à certaines de ses premières influences, comme Bud Powell ou Thelonious Monk, mais aussi réexaminer ces aspects de son jeu pour les replacer dans une autre perspective. Il a conservé la spontanéité qui caractérisait une grande partie de son travail, mais il peut désormais se concentrer sur d'autres aspects. Les racines africaines, la forme et surtout la musique en tant que reflet de la vie qui l'entoure, en tant que moyen d'expression personnelle avec une dimension spirituelle. Son confrère Billy Taylor a écrit de lui « McCoy Tyner est un homme profondément religieux et l'on retrouve dans sa musique la sérénité, l'amour de Dieu, le souci de l'unité et de la discipline, la clarté des idées et une approche sincère et naturelle du partage ». Sa musique, rajoute Billy Taylor, reflète fidèlement ce qu'il est et ce qu'il représente, de sorte qu'en plus des qualités susmentionnées, on y trouve aussi la puissance, la colère, la frustration et toutes les autres qualités émotionnelles qu'un homme sensible et passionné doit exprimer pour maintenir son équilibre émotionnel lorsqu'il raconte son histoire en musique. McCoy Tyner ou l'autobiographie. Herbie Hancock, né en 1940, a retenu les leçons de Miles Davis, celui qui le révéla au grand jour. 1. Ne jamais regarder en arrière. 2. S'entourer des talents de la nouvelle génération. 3. Éviter de se répéter en figeant une formule, fut-elle gagnante.
And Miles noticed that. And he leaned over and he said, don't play the butter notes.
Et c'est fort de ces préceptes que Herbie Hancock effectue régulièrement des virages sur l'aile, se passionne pour les nouvelles technologies, mais n'oublie jamais le potentiel populaire du jazz. Dès le départ, chez Blue Note, aux côtés de Donald Byrd ou Eric Dolphy, Herbie Hancock manifeste un esprit d'ouverture et de recherche. Il a aussi assimilé très tôt la musique européenne. Et avec ce double bagage, il a pu développer une dimension ludique dans le traitement des compositions, tout en étant capable de la plus grande abstraction. Herbie Hancock aime jouer, au sens propre du terme, au sens fort du terme, avec les repères donnés, ou avec des règles qu'il s'invente continuellement. Évoquant le style de Herbie Hancock sur le site de la Philharmonie de Paris, Ludovic Florin remarque que sur l'instrument, il a su garder un toucher à la fois délicat et jamais cogné. Il suit certainement de ses études classiques, qui contrôlent constamment l'énergie nécessaire à chaque dynamique utilisée. C'est peut-être ce sens de l'équilibre entre mouvement, fluidité, déstabilisation, inconnu et harmonie qui résume la musique de Herbie Hancock. En tant que compositeur, au-delà de sa propension à aligner les tubes, de Watermelon Man à Rocket, il y a une vraie science des timbres chatoyants, comme dans ce Maiden Voyage paradisiaque. Comme Herbie Hancock, Chick Corea, 1941-2021, est passé chez Miles Davis. Et tout comme lui, du point de vue discographique, il fait des allers-retours entre acoustique et électrique, participant aussi bien à l'éclosion du jazz fusion, avec son groupe Return to Forever, que réhabilitant la musique de Bud Powell ou de Thelonious Monk. Mais il a aussi révélé des jeunes talents, Chick Corea, comme la pianiste japonaise Hiromi ou le contrebassiste israélien Avishai Cohen. Et juste avant d'intégrer la formation de Miles Davis, on est en 1968, le second album de Chick Corea Now He Sings, Now He Sobs est un coup d'éclat, un trio éblouissant de fraîcheur avec un jeune bassiste tchèque de 19 ans, Miroslav Vitus, et le légendaire batteur Roy Haynes. Selon Korea, le titre de l'album provient du Yi Jing, un classique de la littérature ancienne chinoise qui contient une section intitulée Now He Sings, Now He Sobs, Now He Beats the Drum, Now He Stops. Maintenant il chante, maintenant il sanglote, maintenant il bat le tambour, maintenant il s'arrête. Corée a expliqué, la poésie de cette phrase correspond au message de la musique du trio. La gamme des expériences de la vie, l'image humaine dans son ensemble et la gamme des émotions. Sur le plan pianistique, Chick Corea privilégie la main droite. « Je conçois la basse comme faisant partie de la construction harmonique », dit-il. « Certes, je pense à la basse dans ma manière de jouer, mais je préfère abandonner ce rôle à la contrebasse. » Alain Gerber a pu écrire à propos de la main droite de Chick Corea, « Elle trace une mélodie tantôt bondissante, tantôt tendue au creux d'un silence. Le toucher se tient à la limite du percussif, net et autoritaire, sans être dur. Et au-delà de la versalité de ses formules orchestrales, deux constantes chez Chick Corea. D'une part, un accent hispanisant dans beaucoup de ses compositions, et ensuite un goût marqué pour les rencontres avec des improvisateurs de haut vol, des duos avec Herbie Hancock, avec Bobby McFerrin, avec Gary Burton, des échanges avec Paco de Lucía, Gonzalo Rubalcaba, Joe Anderson, ou comme ici, Michael Brecker. En 1964, une pianiste anglaise installée aux États-Unis, Marianne McPartland, inaugura une formule radiophonique où elle invitait un musicien à la rejoindre autour du micro et du piano. À partir de 1979 et pendant 25 ans, sur NPR, le service public américain, elle a produit une série piano jazz où elle dialoguait avec un ou une collègue pianiste avec des exemples et des défis musicaux à l'appui. La formule fut inaugurée avec Marie-Lou Williams. Tout le gratin du piano jazz américain a défilé devant le micro de Marianne McPartland et une série d'albums témoigne de ses rencontres.
Oh wow. It's amazing. That was a lot of fun. I enjoy those things.
Une véritable anthologie in situ parmi ces rencontres mémorables de Marianne McPartland, la pianiste et chanteuse Charlie Horn. C'était le troisième épisode de Piano Jazz dans la Jazz Collection de France Musique proposée par Alex Dutille. Prise de son et mixage Valérie Lavalard, attaché de production Emmanuel Lacaze, réalisation signée Pierre Villers.
France Musique.